Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes ML. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
Le maïs, un aliment couramment consommé en RDC, c'est presque dans toutes les provinces du pays qu'on mange du maïs. Et aujourd'hui, on va découvrir comment est cultivé le maïs avec notre invité David Ndombele. On le sait certainement, il y a beaucoup de Congolais qui aimeraient bien se lancer dans la culture de maïs. Il y a peut-être aussi beaucoup d'autres qui sont déjà dans cette activité, mais qui parfois n'y sont pas satisfaits de récolte. Alors, on va découvrir avec notre invité David Ndombele, ingénieur agronome, quelles sont les différentes techniques pour cultiver les maïs, également pour entretenir un champ de maïs. Nous rappelons le numéro de contact si vous avez des questions à poser par rapport à ce sujet sur comment les techniques pour cultiver le maïs et entretenir un champ de maïs. Nous rappelons le numéro d'appel, c'est les 081-890-63-94. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook Okapi Service. David Ndombele, le maïs, comment on doit s'y prendre pour qui tu veux. Mais si vous voulez d'abord bien nous présenter cette plante, le maïs.
Déjà, comme vous l'avez si bien dit, c'est la céréale la plus cultivée dans le monde. Et c'est une des cultures principales de notre pays, avec le manioc, le riz, les arachides. Une des cultures, en tout cas, la plus consommée dans notre pays. Alors, le maïs, déjà, le nom scientifique, c'est Zea maïs. Elle est de la famille de Poacées. Elle est originaire de l'Amérique centrale, plus précisément du Mexique. La morphologie du maïs, je pense que presque tous les Congolais connaissent cette culture. Vraiment, c'est vraiment presque pas nécessaire de la présenter. Mais de toute façon, le maïs est une céréale herbacée annuelle. La tige varie de 60 cm, elle peut atteindre même 6 mètres de hauteur. Le maïs est une plante monoïque, à inflorescence.
Monoïque, c'est-à-dire?
Oui, les inflorescences, il y a une fleur femelle et une fleur mâle sur la tige du maïs. La femelle, la fleur mâle est sur la panicule terminale et la fleur femelle a les selles de feuilles. Et il y a de nombreuses variétés de maïs, en tout cas, dans le monde. Même chez nous, en tout cas, il y a tellement de variétés que ce serait vraiment difficile de les nommer toutes. Et la plus principale ici chez nous, je pense que pour le moment, c'était les Kasaï, la variété Kasaï. On a recouru à la variété Salongo et actuellement, je pense que c'est la plus utilisée, c'est la variété Samaru.
Et il est comment cette variété, la variété Kasaï?
Oh, elle est de, bon, les graines sont de couleur jaune, je pense que c'est la plus préférée chez nous. Vous verrez, les épis ont des graines bien alignées. Et c'était celle qu'on avait plus répandue pour la culture dans notre pays. Bon, on recourt à d'autres variétés. Les auditeurs nous le diront aussi. Dans chaque coin de la République, il y a des variétés locales qui sont quand même, qui répondent bien dans les différents types de sols de notre pays.
Alors, on veut maintenant se lancer dans la culture du maïs. Quelle est la première chose à faire?
La culture du maïs. Déjà, le maïs est une plante très exigeante. Il faut des sols riches en matière organique, doté de bonnes propriétés physiques, c'est-à-dire une bonne texture, une bonne structure. Le maïs n'aime pas les sols acides. Dans le cas des sols acides, il faudrait peut-être penser au chaulage, utiliser un peu de chaux. Bon. Les conditions de culture varient aussi d'un coin à l'autre du monde.
Mais quand vous dites un sol riche en matière organique, c'est ce que vous appelez souvent un sol meuble, mais c'est quel sol? Quand vous dites riche en matière organique.
Les propriétés physiques et le sol meuble.
Oui.
Alors le maïs aime un labour assez profond, mais les sols riches en matière organique. Les matières organiques, ici chez nous, vous voyez dans les Mikala, ici chez nous, on utilise n'importe quelle feuille, les feuilles les déchets de cuisine, les feuilles mortes, c'est là qu'on situe la matière organique brute. Les sols bien ameublis, avec dans lesquels on a enfoui cette matière organique, est enrichi, et ce maïs aime ce genre de type de sol. Alors, côté texture, un sol meuble, comme vous l'avez dit, côté structure, un sol bien labouré. Bon, les conditions de culture sont très variées dans le monde. Bon, ici, il faut faire, on a l'agriculture traditionnelle, on a l'agriculture mécanique. Je pense que la plupart de nos paysans recourent à l'agriculture traditionnelle.
Oui.
Après la préparation du sol, après le labour. Mais ici, il faudra aussi faire attention avec la zone. On est, quand qu'on soit en zone forestière ou en zone de savane. Même à Bukangalos, je pense qu'on a cultivé le maïs sans labour. Hein. Donc, quand je dis un labour profond, mais ça dépend. Ça dépend des conditions de sol du coin dans lequel on se trouve. En agriculture intensive, c'est-à-dire mécanisée, là, en tout cas, on recourt au labour parce que là, c'est mécanisé. Mais l'agriculture traditionnelle, soit un labour manuel avec la houe. Après ce labour, il faut bien labourer le sol pour le maïs. Bon, on peut cultiver le maïs à plat, c'est-à-dire après labour, après avoir préparé l'île des semis, à plat, on cultive le maïs. On peut cultiver le maïs sur billon. Le billon, je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, on a un peu bombé le sol, hein. On a bombé le sol après le... Ou bien alors sur bitage, sur de buts. De buts, ce sont des petites monticules de sol qu'on a rembourrées. Mais le...
Donc vous avez dit le billon, vous bombez le sol et puis... Et puis vous avez parlé des buts qui sont des monticules. C'est facile à différencier tout cela lorsqu'on est sur le terrain.
Oui, les agriculteurs comprennent facilement. C'est très facile parce que la culture à plat, juste après le labour, hein, comme on est là sur une table, elle est vraiment à plat, on peut cultiver le maïs.
Oui.
Bon, sur le billon, avec la mécanisation ou à la main ou de manière manuelle, on peut le faire, on peut former des billons sous forme de micala, comme de plate-bande.
Oui.
Le but, ce sont juste là où on va cultiver le maïs, des petites monticules, donc des petites, je peux dire d'une manière figurée, des petites collines. Hein, on a vu juste aux endroits où on mettra le maïs.
Oui.
Ce sont les trois différents types de techniques pour semer le maïs.
Bon, donc vous avez dit il faut d'abord commencer par choisir un sol riche. En matière organique, un sol, vous avez dit, qui n'est pas acide, hein,
oui, voilà, qui n'est pas trop acide,
et
oui.
Ensuite commence bien labourer les sols.
Tout
après
à
avoir
fait.
Labouré les sols, vous avez parlé de trois techniques pour planter.
C'est ça.
Soit on le fait à plat, soit on le fait sur billon, comme vous avez dit,
oui.
Ou alors sur des buts, hein, des petites monticules.
Exactement.
Alors, on a bien fait tout cela, et ensuite.
Bon, on peut procéder alors au semis.
Oui.
Les semis sont directs, comme j'ai dit, sans labour. Enfin, là, j'en ai déjà parlé. Bon, dans l'agriculture traditionnelle, on sème trois graines par poquet. Trois graines par poquet. La densité dépend de la variété choisi, ça dépend de la fertilité des sols, mais dans tous les cas, dans l'agriculture traditionnelle, souvent, je pense que ce sont les écartements de 80 cm sur 50 cm, mais avec 3 graines par poquet. Dans l'agriculture mécanisée, là, les écartements sont de 80 sur entre lignes, ou 75 cm entre lignes. Bon, dans la ligne, elle varie de 10 à 20, 25 cm les différentes graines. Là, mais
les écartements, c'est surtout pour la médecine, plutôt l'agriculture traditionnelle.
Traditionnelle.
Hein. Là, vous avez parlé de 30 cm.
80 cm fois 75 ou 75.
Là, pour.
Ou 50 cm.
Là, c'est pour
l'agriculture traditionnelle.
Traditionnelle, d'accord.
Voilà.
Et les écartements, c'est important aussi de respecter cela.
Très important, très important. Mais l'idéal, c'est d'avoir 50 000 poquets par hectare. C'est l'idéal pour la culture de maïs. Quels que soient les écartements, l'idéal, c'est d'avoir 50 000 trous. Dans un hectare, oui.
Bon, vous allez poursuivre. Hein. Là, on était maintenant, vous parliez de comment planter. On va poursuivre. On va d'abord accueillir Joseph, c'est bien cela, qui nous appelle de Kikwit. Voilà. Merci beaucoup à Paul Badianem, c'est Joseph qui nous appelle de Kikwit, c'est bien cela. Voilà, c'est Joseph qui est à Kikwit, qu'on va accueillir. Et puis, on va poursuivre avec notre invité. Joseph, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Merci d'avoir choisi ce sujet qui est, en fait, pour moi, très pertinent.
On vous écoute.
Oui, j'ai, en fait, comment résoudre un peu le problème des maïs. L'invité nous a quand même posté en ligne ce que c'est le maïs. Mais moi, je voudrais juste m'atteler sur ce qu'il y a de la source de provenance des semences.
Oui.
On peut bien pratiquer les techniques, on peut être là, les écartements et consorts, mais il faudra qu'on sache d'abord d'où provient la semence. Parce que aujourd'hui, quand vous circulez dans les pays, les Congos les plus profonds, vous allez vous rendre compte que les paysans, les mamas qui sont en train de cultiver, ont comme source de provenance des semences. Ce n'est pas les tamarots que l'invité nous a dit, ce n'est pas non plus d'autres variétés qu'il a déjà précitées. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse intérioriser cette culture, que les mamas qui sont en train de faire l'agriculture aient cette habitude d'aller chercher les semences qui doivent être, les semences peut-être bien certifiées par les SERAFIM et consorts. Mais aussi, en ce qui concerne les écartements, ça pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, dans les pays, quand vous allez circuler, vous allez trouver plusieurs sortes d'écartements. Mais je voudrais aux agriculteurs qui nous écoutent à la longue de vouloir un peu expérimenter le système d'écartement jumelé. Donc si on peut semer ça jumelé en quinconce, les écartements jumelés en quinconce avec 30 ou 20, la densité est plus augmentée et le rendement est vraiment prévisible. Et aussi tenir compte aujourd'hui des dates de semis. Avec l'histoire des perturbations climatiques, ça pose problème. Vous allez vous rendre compte que les calendriers agricoles qui disaient qu'on peut semer vers les 15, aujourd'hui les mamans sèment, mais au moment où ils sèment, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas tout ça, et ça pose un peu de problème. Je ne sais pas comment l'invité pouvait conseiller ces mamans-là pour que les résultats soient
Merci beaucoup, Joseph, d'avoir appelé de Kikwita. Bujumbura, Arsène est en ligne. Bonjour, Arsène.
Oui, bonjour, non?
On vous écoute, Arsène.
Oui. Ok, je remercie encore de m'associer dans l'émission, mais je demande directement à notre invité de savoir parce que le sujet, c'est comment améliorer la culture du maïs. Bon, quelque part, nous sentons aujourd'hui, nous avons des difficultés, surtout à l'est dans notre pays, il y a autant de guerres, bon, et nous sentons vraiment, il y a les fuites de l'exode rural. Donc la population vraiment n'est pas concentrée dans les milieux ruraux. Et je me pose directement, est-ce que c'est possible aussi d'améliorer cette culture-là de maïs et pourtant bon, les propres fils ou les propres jeunes garçons qui pouvaient le faire, bon, peut-être qu'ils sont dans la guerre, ils sont dans des chemins de la ligne de malheur pour ne pas cultiver ça. Et autre chose, c'est que moi je me demande, bon, comment ça fait-il aujourd'hui? Nous avons un peu de slogans qu'on nous dit la vie est chère. Et partout, nous sentons souvent là, Kinshasa, il y avait eu des marchés. On est en train de dire la vie est chère. Et pourtant, si on fait des marches pour la vie est chère, l'opposition est derrière cette marche-là. Et pourtant, l'opposition congolaise ne fait pas aucune analyse constructive en disant
Arsène, s'il vous plaît, on est en train de parler de la culture du maïs, c'est là. Oh, je sais pas où vous nous amenez. Merci d'avoir appelé à Depi Bujumbura. Voilà, on revient à vous, ingénieur David Nobele. Vous avez suivi la Joseph qui a parlé des semences. Il y a un problème. Lui, il a souhaité que qu'on puisse encourager les mamans à accéder aux bonnes semences pour avoir de bonnes récoltes de maïs. Il est également parler des écartements qu'il faut respecter. Et apparemment, d'après lui, les écartements se font n'importe comment. Et aussi, un autre problème important, c'est le semis hein, par rapport au changement climatique.
Ok. Il n'a pas tort. Il a tout à fait raison. Il a un peu anticipé. Mais de toute façon, je remercie M. Joseph de sa contribution à Kikwit. Effectivement, le problème de semis se pose dans notre pays. La meilleure chose à faire, c'est de choisir des semences améliorées. Les semences améliorées, parce que ces semences-là contiennent, par rapport à leur fiche technique, sont des semences certifiées, comme il l'a dit. Mais pour arriver à une semence améliorée, il y a tout un long processus. Le SENASEM, il a cité le Service national de ferme des semences du ministère de l'Agriculture, qui procède avec leurs inspecteurs à l'amélioration variétale du maïs. Bon, effectivement, je l'avais déjà souligné, dans notre pays, à travers le pays, il y a plusieurs variétés. Il y a encore, les mamans recourent encore aux variétés traditionnelles. Ces variétés traditionnelles se dégénèrent, donc le rendement baisse. Lorsqu'on recourt à une semence de qualité, hein, une semence de qualité répond à plusieurs normes, elle est certifiée, elle a été sélectionnée, elle a été améliorée par rapport à, on peut avoir des semences hybrides où on a procédé par le croisement, tout comme on peut améliorer les semences par la population en sélectionnant, en enlevant les impuretés, ainsi de suite, pour arriver à une semence tout à fait convenable. Mais dépend aussi des types de sol et du coin dans lequel on se trouve. Ces semences, évidemment, les mamans ne recourent pas tellement à ces semences parce que, bon, elles coûtent un peu cher, mais dans de grandes exploitations, en tout cas, la plupart du temps, on recourt aux semences améliorées et certifiées. Monsieur Joseph a évoqué le problème de changement climatique. Effectivement, c'est vrai. Il faut semer le maïs au début de la saison pluvieuse. Le maïs, je l'avais dit, c'est une plante très exigeante. Le maïs aime une lumière. Elle est exigeante à lumière. Il faut pas que la lumière soit inférieure à 10 degrés. La température, hein, soit inférieure à 10 degrés. Et il faut pas qu'elle excède non plus 25 degrés. Elle est exigeante en lumière. Et puis, le maïs est exigeante en eau. Il faut au moins 500 mm de pluie durant toute la bien répartie, d'ailleurs, cette pluie bien répartie durant toute le cycle végétatif du maïs. Alors, dans ces cas-là.
Et quand il n'y a pas de pluie, il faut bien arroser, hein.
Là, on peut procéder à l'irrigation ou à l'arrosage. Mais il faut bien caler. Ça dépend maintenant, comme il a parlé des changements climatiques. Effectivement, il y a des perturbations. Actuellement, on se retrouve plus dans les calendriers agricoles. Regardez déjà ici à Kinshasa. Les pluies ont bien commencé en septembre. Le 15 septembre, je rappelle, il avait plu. Mais par après, il y a une rupture.
Et
maintenant,
ce mois de novembre,
il pleut tout le temps.
Exactement.
Bon, ça perturbe un peu les agriculteurs par rapport à la saison culturelle. Mais du moins, on cultive le maïs au début de la saison pluvieuse. Et
ça dit déjà autour de quel mois?
D'octobre, ici chez nous. Ici, pas à l'est, mais ici chez nous. Il faut déjà cultiver le maïs. Mais dans les régions comme l'Équateur, là, il pleut presque toute l'année. Je pense que là, ils procèdent à la culture du maïs n'importe quand, sauf en janvier, février, une petite saison sèche. Et puis chez nous, on commence à semer le maïs en octobre, en saison A, et puis en février pour la saison B. Et par rapport à M. Joseph, il a parlé, j'ai répondu pour les écartements. J'ai dit l'idéal, c'est d'avoir 50 000 poquets par hectare.
Les poquets, vous avez dit des trous, hein, on va semer.
Oui. Quel que soit, bon, l'écartement dépend de la variété, dépend de la fertilité du sol, ainsi de suite. Bon, voilà. Mais Sarsen n'avait presque pas de questions.
Non, mais Sarsen, on va plutôt avoir un autre auditeur, plutôt accorder la parole à notre auditeur qui est en ligne. C'est Clément Ndaye qui nous appelle du Kananga. Clément Ndaye, bonjour.
Bonjour, journaliste, bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
Je voudrais juste demander à notre invité, par rapport à ce que j'ai remarqué, c'est vrai que le maïs tel qu'il a commencé par son introduction, c'est un bon indicateur du sol pauvre ou bien du sol riche. Mais au moment qu'on pratiquait, par exemple, la culture traditionnelle, j'espère qu'on pouvait avoir trop de maïs ici à Kananga. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Comme les gens normalement s'adaptent à la modernisation, j'ai vite compris, comme ils veulent cultiver, soit pratiquer la culture mécanique et mécanisée, il n'y a pas encore trop de maïs sur l'étendue. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? S'adapter à la culture traditionnelle pour avoir trop de maïs, ou bien s'adapter à la culture mécanisée pour avoir trop de maïs, ou bien, comme nous sommes dans une carence, on n'a pas trop de maïs puisqu'on s'est adapté à la culture mécanisée. Alors la deuxième question que je voudrais lui demander, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un produit par rapport à tout ce qu'il a énuméré comme espèce? Puisque tout ce que nous avons comme espèce ici, devant un vent violent, ça s'écasse vraiment, ce n'est pas flexible. Est-ce qu'il n'y a pas un produit que nous devons normalement appliquer pour que nous puissions avoir le maïs flexible qui peuvent normalement résister au vent violent et de quelle façon nous donner normalement des bons produits et qui peuvent aussi résister à toutes sortes de maladies qui font vraiment rage sur l'étendue des Kananga. Merci, Jody.
C'est Marcel. Merci, Clément Ndaye, d'avoir appelé de Kananga. David Nobeli, qu'est-ce que vous dites à Clément?
Bon, culture mécanique ou traditionnelle, bon, pour moi qui suis agronome, je pense que je penserais pour la culture intensive, donc mécanisée. Mais ce n'est pas les conditions dans lesquelles on se retrouve dans la plupart des recoins de notre pays. Parfois, on recourt à la culture traditionnelle. Tous les deux types de cultures, là, sont bonnes. Hein, le mécanisé, on peut avoir un grand rendement parce que on a des machines, on a recours aux machines qui travaillent à la place de l'homme. Mais traditionnel, évidemment, avec les conditions qu'on a, des outils aratoires assez rudimentaires, on a des petites superficies. Par contre, à la culture mécanisée, on peut avoir de grandes étendues de cultures. Bon, ça, c'est le choix dépend du coin, de moyens, de la capacité, de la mesure, de la dimension de l'exploitation. Bon, la plupart du temps, en agriculture traditionnelle ou familiale, je pense qu'on a des petites superficies. Là, on peut recourir à l'agriculture traditionnelle. Mais par rapport aux variétés et au vent, il a évoqué le vent. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui stressent le rendement du maïs. Le maïs est très, très, très souvent stressé. Il y a les climats. Les climats, bon, en cas de sécheresse, j'ai parlé de besoin en eau. La sécheresse peut handicaper le rendement du maïs. L'excédent d'eau aussi peut l'handicaper. On a besoin d'eau, mais l'excédent peut handicaper, être un handicap. Bon, le vent.
L'excédent d'eau, ça fait que c'est quoi l'handicap?
L'handicap, quand il y a beaucoup plus, il pleut tout le temps, il y a une grande quantité d'eau et peut handicaper parce que à ce moment-là, les racines peuvent pourrir et peuvent causer des maladies, ainsi de suite. Donc, il y a une quantité d'eau optimale qu'il ne faut pas dépasser durant le cycle végétatif. Bon, il y a le vent. Le vent, évidemment, c'est qui cause l'averse. L'averse, c'est-à-dire que la tige de maïs, avec le vent assez violent, la tige de maïs se renverse, ou tombe, ou se casse, comme il a dit.
Si c'est pas facilement flexible.
Là, maintenant, c'est question de densité, question de la variété par rapport à la taille. Hein, il faut faire recourir à une bonne variété. Qu'elle soit traditionnelle ou là où il est à Kananga. Je sais que je suis passé par Nganajika. Nganajika et Alinera, on développe de bonnes variétés de maïs, même résilientes, qui peuvent supporter les changements climatiques. Il y a des bonnes variétés là-bas.
Là, faut se renseigner sur place, quelles sont les bonnes variétés qui peuvent permettre, ça, lorsqu'il y a vent, que les tiges soient flexibles, ne cassent pas.
Ne se cassent pas. Oui. Ça, ce sont des facteurs qui stressent la culture du maïs.
Il n'y a pas également des maladies?
Bon, il y a des maladies pour le maïs. Ici, nous sommes en zone tropicale. Il y a beaucoup de maladies.
On fait signe qu'il y a un autre auditeur qui appelle de Kananga, et c'est Mavé. On l'écoute et puis on va poursuivre avec vous, David Ndombele. Pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est le magazine Okapi Service. Nous sommes en train de parler de techniques de culture et d'entretien d'un champ de maïs. Si vous êtes intéressé, appelez au 081-89-63-94.
Okapi Rétro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Ma fille nous appelle de Kananga et Julien Mboué est à Lubumbashi. On y va d'abord avec Mavé. Mavé, bonjour. Bonjour Mavé. On va retrouver Mavé. Julien Mboué, lui, est à Lubumbashi. Julien Mboué, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour Alain Dito.
On vous écoute, Julien Mboué. C'est Marcel à l'antenne. Quelle est votre question?
Ok, merci. Je voulais demander à l'invité. Il nous a dit au début que pour produire le maïs, il faut un labour assez profond. C'est qu'il nous a dit, il a insisté beaucoup sur ça.
Oui.
Je me demande pourquoi, par exemple, ici à Lubumbashi, la culture du maïs sans les produits chimiques, les engrais, les urées, MTK et autres, le maïs ne se produit jamais. À Lubumbashi, c'est comme ça, c'est le cas de Lubumbashi. Vous essayez de faire un labour profond, que ce soit quelle profondeur que vous allez atteindre du sol, les maïs ne peuvent pas pousser, tant qu'il y ait un vrai chimique qui est MPK et autres choses-là. Je ne sais pas comment il va répondre par là. Et aussi, je voulais savoir comment se fait la reproduction du maïs. Il y a des fois, vous mettez des grains blancs, mais en récolte, vous aurez des maïs jaunes. Et des petits maïs là, avec lesquels on fait des pop-corns, je ne sais pas le nom, je ne sais pas du domaine. Je ne sais pas comment ils vont me parler sur ça. Je ne sais pas la reproduction. Vous avez planté des maïs, blancs, mais vous récoltez aussi des jaunes. Et aussi, si vous pouvez me parler sur la grandeur des grains du maïs. Il y a des grains qui paraissent gras et autres un peu petits. Quel que soit le type de grains que vous allez mettre, vous mettez des grains gras, mais vous récoltez des petits grains. Je ne sais pas comment il va parler par rapport à ça. Merci et bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous aussi, à Julien Mboué. Merci d'avoir appelé de Lubumbashi. David Ndombé, vous avez suivi.
Bonjour, de... monsieur Jules.
Voilà. Bon, il a parlé de grains blancs. Oui. Et vous voulez savoir comment il peut arriver que vous semez des grains blancs, mais puis vous avez des grains jaunes, et puis vous avez des petits grains et des grands grains. Pour comment expliquer tout cela? Et puis il a parlé également, vous avez parlé de qu'il faut un labo profond. Mais voilà que même si Lubumbashi, ça c'est d'après lui, même quand on fait un labo profond et utilise des engrais, souvent la reproduction, on n'a pas toujours de bonnes récoltes. Et puis elle voulait savoir comment s'est fait la reproduction du maïs.
Ok, monsieur Jules, merci pour vos préoccupations. Par rapport aux engrais, vous dites qu'à Lubumbashi on réussit pas la culture du maïs, mais je ne sais pas, le Katanga était vraiment vaste. Bon, dans les conditions traditionnelles, parfois on ne recourt pas aux engrais, mais il y a quand même un rendement, on obtient quand même et on récolte quand même quelque chose. Mais effectivement, on conseille, parce que le maïs est une culture exigeante, j'insiste là-dessus, une fumure d'au moins, une fumure donc là, dans la fertilisation, au moins 300 kg de NPK et 100 kg d'urée.
Et bon, fumure, c'est le fumier, c'est ça?
Oui, la fumure, c'est les engrais.
Les engrais.
En culture intensive, mais il faut une fertilisation raisonnée. J'insiste bien sur une fertilisation raisonnée. C'est-à-dire que le coût de revient de la production, quand on recourt aux engrais ou aux pesticides, doit être économique. Si ce n'est pas économique, autant ne pas utiliser les engrais. Donc, une fertilisation raisonnée. Les grandes exploitations utilisent les engrais parce qu'évidemment, l'étendue est très grande. Est très grande, et puis ils peuvent quand même se retrouver, il y a un bénéfice économique. C'est pour la fertilisation. L'azote est utilisé, je crois, un tiers de la quantité d'azote au moment du semis, et le deux tiers au moment de la montaison du maïs, c'est-à-dire un peu avant la floraison du maïs. Ce qui correspond à peu près chez nous à 45 jours après semis pour l'utilisation. Donc le NPK est mis en fond. Et la quantité déjà dans les NPK, il y a d'azote, et le reste de l'urée pour la croissance est mis avant la floraison. Bon, par rapport à toutes les questions relatives à la reproduction, les petites graines, les couleurs différentes, ça c'est justement pour ça qu'on recourt aux semences de qualité. La semence de qualité certifiée est une semence pure, c'est-à-dire purifiée. On n'a pas, parce que nos semences traditionnelles comportent beaucoup dans leur gène, on entre en hérédité, dans la génétique, il y a plusieurs caractéristiques génétiques. Souvent, les semences traditionnelles, le tout venant, comme nous disons en termes agronomiques, ne sont pas pures. Et là, on peut retrouver en plante des semences jaunes, mais si dans leur constitution même, dans leur physiologie, ils avaient déjà de gènes, de graines de couleur noire, il peut se retrouver que, évidemment, dans la reproduction, la première génération se retrouve avec des semences de différentes qualités, donc des graines de différentes qualités. Mais lorsqu'on recourt aux semences, comme j'avais déjà parlé, la première variété qui était un peu plus améliorée, si beaucoup répandue, les Kasai, là, tous les grains sont jaunes. On retrouve pas. Donc, tout ce qu'il a, le calibrage, le petit ou grand, donc tout ça, c'est bien si la semence est tout venant et n'est pas de bonne qualité. Bon, et c'est quelque chose que j'ai oublié, il faut 25 à 30 kilos de semences pour un hectare. Ça c'est pour le semis, donc 25 à 30 kilos de semences par hectare. Quant aux maladies où on en était, il y a plusieurs maladies chez nous en zone tropicale. Et les plus fréquentes c'est la rouille, c'est-à-dire des petites taches rondes qu'on remarque sur le maïs. Et l'helminthosporiose, c'est aussi une maladie. Mais tout comme il faut une fertilisation raisonnée, c'est-à-dire économique, la lutte chimique, je pense que dans la culture du maïs aussi, est peu rentable dans la culture traditionnelle. Peut-être pour les grandes exploitations, ils peuvent recourir à la lutte chimique. Et le maïs voudrait un bon entretien. Déjà, lorsqu'on l'a semé, à la levée, il faut déjà enlever les mauvaises herbes. Il ne faut pas une compétition entre les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, par rapport en besoin en eau ou en éléments nutritifs du maïs. Et les mauvaises herbes. Il faut vraiment un bon entretien du maïs. Il faut des variétés, une résistance variétale. Il faut choisir une variété qui résiste parfois à certaines maladies pour ne pas recourir à la lutte chimique. On peut procéder par arrachage. Et à part les maladies, il y a des insectes, des ravageurs. On trouve beaucoup de foreurs de tiges. On trouve les borères. Il y a des chenilles qui peuvent dévaster les cultures de maïs. Bon, il y a les charançons. Les charançons, surtout lorsqu'on a récolté, pendant la récolte, je crois, c'est ça, c'est l'ennemi le plus, vicieux du maïs, hein, pour lorsqu'on on est en train d'entreposer le maïs. Bon, il y a les mauvaises herbes pour la concurrence. Ça, ce sont des facteurs qui handicapent aussi le rendement du maïs. Alors, quand est-ce qu'on récolte le maïs? Le maïs cultivé est récolté. Bon, il y a du maïs déjà à 3 mois.
Oui.
On peut récolter le maïs, ce qu'on appelle le maïs de bouche, le maïs tendre là. Là, on peut déjà récolter et bouffer. Mais pour la conservation, il faut attendre 5 mois. Le maïs, c'est une culture qui va de 90 à 120 jours. Donc, 4 mois, 5 mois. On récolte le maïs lorsqu'il y a un bon taux d'humidité. Un bon taux d'humidité. Déjà, les spathes de maïs, les feuilles là, de maïs sont déjà bien secs. Là, on récolte. Mais pour le maïs de bouche, il y a 3 mois. C'est le maïs sucré. Oui. Ça, on mange. Et ici, je dois revenir aussi à l'utilisation du maïs. Le maïs est utilisé pour l'alimentation humaine.
Oui.
Nous préférons beaucoup, surtout au Kasaï,
oui.
L'alimentation animale. On peut cultiver le maïs comme fourrage pour les bêtes. On peut cultiver le maïs pour faire de l'huile. On peut avoir la farine de maïs, la semoule, le maïs, et ainsi de suite. Et dans l'industrie aussi, on peut, à partir de germes de maïs, avoir l'amidon. Tout ça, c'est l'utilité du maïs.
Oui.
Alors, lorsqu'on a récolté, j'ai parlé de taux d'humidité, il faut sécher le maïs et d'atteindre au moins un taux d'humidité de 12%. C'est à ce moment-là on peut conserver. Pourquoi j'insiste sur le taux d'humidité convenable? Parce que pour éviter évidemment certains désagréments par rapport aux maladies.
Voilà, et donc si vous avez des problèmes par rapport à tout ça, il faut chercher l'agronome du coin qui pourra vous aider par rapport à tout ça. Donc nous retenons que le maïs, il faut un labo profond, il faut des écartements de 50 cm.
Et
pour la culture traditionnelle, vous avez également parlé de 20 à 30 kilos
de 25 à 30 kilos de semences par hectare.
Et puis, cette culture est très exigeante par rapport à l'eau.
Tout à fait.
Et vous avez dit pour l'entretien de champs de maïs, éviter les mauvaises, que les mauvaises herbes puissent l'envahir. Voilà, on va s'arrêter par là, David Nobelé. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de techniques de culture et d'entretien de champs de maïs. Nous rappelons que vous êtes ingénieur agronome. Merci.
Ok, merci beaucoup. Salutations à l'auditeur qui est d'Anvers et qui me suit à partir de Kinshasa où il est en congé.
Voilà, c'est bon, merci.